Chapitre 7 Sang de bourbe et drôle de voix. Dans les jours qui suivirent, Harry passa une bonne partie de son temps à se cacher chaque fois qu'il apercevait Gilderoy Lockhart au bout d'un couloir. Mais il lui était encore plus difficile d'éviter Colin Crivet, qui avait dû apprendre par cœur son emploi du temps. Rien ne semblait donner plus de bonheur à Colin que de répéter « Ça va, Harry ?» 6 ou 7 fois par jour et de s'entendre répondre « Salut, Colin !» même si c'était sur un ton exaspéré. Edwige en voulait toujours à Harry de son désastreux atterrissage en voiture et la baguette magique de Ron refusait obstinément de fonctionner convenablement. Le vendredi matin, elle se surpassa en s'échappant de la main de Ron pendant le cours de sortilège pour aller frapper le minuscule professeur Flitwick entre les deux yeux, faisant apparaître un gros furoncle verdâtre et palpitant à l'endroit du choc. Harry ne fut pas fâché de voir le week-end arriver. Avec Ron et Hermione, il avait l'intention d'aller rendre visite à Hagrid le samedi matin. Ce jour-là, cependant, Harry fut brutalement réveillé à une heure beaucoup plus matinale qu'il ne l'aurait souhaité. C'était Olivier Dubois, le capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, qui le secouait sans ménagement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» balbutia Harry d'une voix ensommeillée. « Séance d'entraînement !» annonça Dubois. « Allez, viens !» Harry ouvrit un œil en direction de la fenêtre. Un filet de brume flottait dans le ciel rosé. À présent qu'il était réveillé, il se demandait comment il avait pu dormir avec le vacarme que faisaient les oiseaux. « Olivier, le soleil est à peine levé » protesta-t-il d'une voix rauque. « Bien vu !» dit Dubois. C'était un élève de 6e année, grand et bien bâti, avec en cet instant une lueur d'enthousiasme proche de la démence qui brillait dans son regard. « On a un nouveau programme d'entraînement !» dit-il avec conviction. « Attrape ton balai et arrive. Aucune autre équipe n'a commencé à s'entraîner jusqu'à maintenant. Nous allons être les premiers cette année !» Bâillant et frissonnant, Harry sortit du lit et se mit à la recherche de sa robe de Quidditch. « Bravo, voilà un garçon courageux !» dit Dubois. « On se retrouve sur le terrain dans un quart d'heure. » Lorsqu'il eut trouvé sa robe rouge vif et revêtu sa cape pour se tenir chaud, Harry griffonna un mot à Ron pour lui dire où il était, puis il descendit l'escalier en colimaçon, son imbus 2000 sur l'épaule. Il s'apprêtait à sortir de la salle commune lorsqu'il entendit derrière lui un bruit de pas précipité. C'était Colin Crivet qui dévalait l'escalier, son appareil photo autour du cou. Il tenait quelque chose à la main.
J'ai entendu dire quelqu'un prononcer ton nom, Harry, dit-il. Regarde ce que j'ai là. Je l'ai fait développer, je voulais te montrer ça.
Harry regarda d'un air interdit la photo que Colin brandissait sous son nez. Lockhart, en noir et blanc, tirait sur un bras que Harry reconnut comme le sien. Il vit avec satisfaction que son image photographique résistait avec vigueur, refusant catégoriquement d'apparaître dans le cadre. Le Lockhart du cliché finit par abandonner la lutte et se laissa tomber hors d'haleine contre la bordure blanche.
Tu me la dédicaces ? Demanda Colin avec avidité.
« Non !» répliqua sèchement Harry. « Désolé, Colin, je suis pressé, j'ai une séance d'entraînement. » Il se glissa dans le passage dissimulé par le portrait de la grosse dame.
« Hé, attends-moi, j'ai jamais vu un match de Quidditch !»
Colin s'engouffra à son tour dans le passage. « Je te préviens, ça va être très ennuyeux !» dit précipitamment Harry.
Mais Colin, les yeux brillants d'excitation, ne l'écoutait pas. « Tu as été le plus jeune joueur depuis un siècle, c'est bien ça, Harry ? C'est bien ça ?» dit Colin en trottinant à côté de lui. « Tu es vraiment très fort. Moi, je suis jamais monté sur un balai. C'est dur, il est à toi ce balai. C'est le meilleur qu'on puisse trouver, non ?» Harry ne savait pas quoi faire pour s'en débarrasser. C'était un peu comme si son ombre s'était mise à parler sans cesse.
« Je ne connais pas bien les règles du Quidditch, » dit Colin, le souffle court. « C'est vrai qu'il y a 4 balles et 2 d'entre elles qui essaient de faire tomber les joueurs de leur balai ?»«
Oui, c'est vrai, » soupira Harry, résigné à devoir expliquer les règles complexes de Quidditch. « On les appelle les cognards. Dans chaque équipe, il y a 2 batteurs armés de battes qui sont chargés de repousser les cognards. Fred et George Weasley sont les 2 batteurs de l'équipe de Gryffondor. »
« Et les autres balles servent à quoi ?» demanda Colin en ratant de marche à force de regarder Harry bouche bée.
« Le soif, la grosse balle rouge, sert à marquer les buts. » Chaque équipe comporte 3 poursuiveurs qui se lancent le soif et doivent essayer de le faire passer à travers les buts adverses, à l'autre bout du terrain. Les buts sont constitués de poteaux très hauts sur lesquels sont fixés les cercles verticaux.
Et la 4e balle?
C'est le vif d'or, expliqua Harry. Il est minuscule, très rapide et très difficile à attraper. L'attrapeur a pour mission de le repérer et de s'en saisir. Le match ne peut pas se terminer tant que le vif d'or reste en vol. Mais lorsqu'un attrapeur parvient à s'en emparer, son équipe gagne 150 points d'un coup.
Et toi, tu es l'attrapeur de l'équipe de Gryffondor, c'est ça ?
Oui, répondit Harry. Il y a aussi un gardien de but dans chaque équipe. Voilà. Ils étaient sortis du château à présent et traversaient la pelouse humide de rosée. Mais Colin était insatiable et continua de poser des questions tout au long du chemin. Ce fut seulement à l'entrée des vestiaires que Harry parvint à se débarrasser de lui.
Je vais me chercher une bonne place pour bien voir, dit Colin en se précipitant vers les tribunes.
Les autres joueurs de l'équipe étaient déjà dans les vestiaires. Dubois était le seul à avoir l'air parfaitement réveillé. Fred et Georges étaient assis côte à côte, les yeux bouffis et les cheveux en désordre. Alicia Spinett, une élève de quatrième année qui occupait un des postes de poursuiveurs, était assise à côté d'eux, la tête contre le mur, prête à s'endormir. Cathy Bell et Angelina Johnson, les deux autres poursuiveuses, étaient assises sur le banc d'en face et passaient leur temps à bailler.
« Ah, te voilà enfin, Harry. Je me demandais où tu étais passé. Bien, alors, avant d'aller sur le terrain, je voulais vous montrer mon nouveau programme d'entraînement. J'y ai travaillé tout l'été, croyez-moi, avec ça, on va gagner. »
Dubois déroula un immense dessin représentant un terrain de Quidditch sur lequel étaient tracées dans des couleurs différentes toutes sortes de lignes, de flèches, de croix. Il sortit sa baguette magique, tapota le dessin et aussitôt, les flèches se mirent à bouger en se tortillant comme des chenilles. Tandis que Dubois se lançait dans de grandes explications, Fred Weasley laissa tomber sa tête sur l'épaule d'Alicia et se mit à ronfler. Le premier dessin demanda près de 20 minutes de commentaires. Mais il y en avait un deuxième au-dessous, puis un troisième. Harry sombra dans un état second, tandis que Dubois continuait de discourir interminablement.
« Alors ?» demanda enfin Dubois en secouant Harry, qui songeait avec nostalgie à tout ce qu'il pourrait être en train de manger en ce moment même pour son petit déjeuner. « Tout est clair? Vous avez des questions à poser ?»«
Oui, » dit Georges qui venait de se réveiller en sursaut. « Pourquoi tu nous as pas raconté tout ça hier avant qu'on aille se coucher ?»«
Écoutez-moi bien tous, » répliqua Dubois courroucé. « L'année dernière, on aurait dû gagner la coupe de Quidditch. On était de loin la meilleure équipe. Malheureusement !»
Harry, mal à l'aise, se tortilla sur son banc. Lors du dernier match de l'année, il était évanoui à l'infirmerie, privant ainsi de sa présence son équipe qui avait subi sa plus grande défaite depuis 300 ans. Dubois s'interrompit un instant. De toute évidence, le souvenir de ce dernier match continuait de le tourmenter.
« Donc, cette année, nous devrons nous entraîner plus que jamais, et maintenant allons expérimenter notre nouvelle stratégie sur le terrain. » Il saisit son balai et se précipita au dehors. L'équipe le suivit dans un long bâillement.
Ils étaient restés si longtemps dans les vestiaires que le soleil était complètement levé à présent, bien qu'il y eût encore quelques lambeaux de brume sur la pelouse du stade.
Lorsqu'il pénétra sur le terrain, Harry vit Ron et Hermione assis dans les tribunes. « Vous avez pas encore fini ?» dit Ron étonné.
« On n'a même pas commencé, » répondit Harry en jetant un regard d'envie sur le toast à la marmelade que Ron et Hermione avaient chacun rapporté de la grande salle.
« Dubois a passé son temps à nous expliquer sa nouvelle tactique. »
Il enfourcha son balai et donna un grand coup de pied sur le sol. Le balai s'éleva aussitôt vers le ciel. L'air frais du matin qui lui fouettait le visage réveilla Harry plus efficacement que le long bavardage de Dubois.
Retrouver le terrain de Quidditch lui procura une sensation merveilleuse. Il s'éleva à pleine vitesse et tourna autour du stade en faisant la course avec Fred et Georges. « Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit ?» demanda Fred alors qu'il prenait un virage serré.
Harry jeta un coup d'œil dans les tribunes. Colin était assis sur l'un des plus hauts gradins et prenait sans cesse des photos. Le son du déclencheur, amplifié par le stade désert, se répercutait en écho tout autour d'eux.
Regarde par ici, Harry ! Harry, par ici ! S'écria Colin d'une petite voix aiguë.
« Qui c'est celui-là ? » demanda Fred.
« Aucune idée, » mentit Harry qui accéléra brusquement pour s'éloigner le plus possible de Colin.
« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Dubois en fonçant vers eux. « Pourquoi il prend des photos, celui-là ? J'aime pas ça. Peut-être un espion des Serpentards qui s'intéresse à nos nouvelles techniques d'entraînement. »«
Il est à Gryffondor, » dit Harry.
« Et les Serpentards n'ont pas besoin d'espions, » dit Georges. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» répliqua Dubois avec mauvaise humeur.
« Ils sont là en personne, » répondit Georges en montrant du doigt un groupe d'élèves qui venaient d'arriver sur le terrain, vêtus de robes vertes, leur balai à la main. « Alors ça, c'est incroyable !» s'indigna Dubois. « J'ai retenu le terrain pour nous. On va voir ça. »
Dubois fonça en piqué et la colère le fit atterrir plus brutalement qu'il ne l'aurait voulu. Harry, Fred et Georges l'avaient suivi.
« Flint !» hurla Dubois à l'adresse du capitaine des Serpentards. « Le terrain nous est entièrement réservé ce matin. On s'est levé à l'aube exprès pour ça. Alors tu t'en vas maintenant. »
Marcus Flint était encore plus grand que Dubois.
« Il y a suffisamment de place pour tout le monde, » répondit-il avec une expression rusée qui lui donnait l'air d'un troll.
« Mais j'ai réservé le terrain !» protesta Dubois écumandra. « Je l'ai réservé !»
« Ah bon, dit Flint ?» Pourtant, j'ai un mot du professeur Rogue. Regarde, je, sous-signé, professeur Rogue, donne à l'équipe de Serpentard l'autorisation de s'entraîner aujourd'hui sur le terrain de Quidditch afin de former leur nouvel attrapeur.
Vous avez un nouvel attrapeur ? Dit Dubois d'un air effaré. Où ça ? Derrière la rangée des 6 joueurs alignés apparut alors un garçon plus petit que les autres, un sourire goguenard sur son visage pâle. C'était Drago Malfoy. C'est toi le fils de Lucius Malfoy ? Demanda Fred en le regardant avec dégoût.
« Tiens, c'est drôle que tu parles du père de Drago, » dit Flynn, tandis que le sourire des autres joueurs s'accentuait. « Je vais te montrer le magnifique cadeau qu'il a fait à l'équipe de Serpentard. » Les 7 joueurs exhibèrent alors leur balai flambant neuf avec des manches en métal chromé étincelant sur lequel était écrit en lettres d'or « Nimbus 2001 ».« Le tout dernier modèle. Il est sorti le mois dernier, dit Flint en chassant d'une pichenette un grain de poussière égaré sur son balai. Je peux te dire qu'il est bien meilleur que les vieux 2000. Quant aux brosses dures, ils ne tiennent pas la comparaison, ajouta-t-il avec un sourire méprisant à l'adresse de Fred et de George qui étaient tous deux équipés de brosses dures 5. Pendant un bon moment, les griffons d'or restèrent silencieux. Quant à Malfoy, il arborait un sourire si large que ses yeux s'étaient réduits à deux petites fentes.